Et le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Patrick Balkany, incarcéré à la prison d'arrêt de la santé depuis hier soir, condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Dans ce journal, nous irons dans sa commune où il est élu depuis 35 ans et nous entendrons aussi l'analyse du magistrat Denis Salas qui salue le rôle du parquet national financier.
Christophe Castaner annonce la mutation du commissaire divisionnaire de Nantes en charge du maintien de l'ordre 3 mois après la mort de Steve Maiskenso.
Oui, l'enquête administrative a souligné un manque de discernement le soir de la fête de la musique. Précision à suivre avec Antoine Marette.
Un sommet ouest-africain pour éviter la propagation du djihadisme se tient aujourd'hui.
Une quinzaine de chefs d'État tentent de trouver des solutions face à l'avancée des terroristes islamistes au Sahel. Analyse à suivre avec Claude Guibal.
Et puis en fin d'édition, Sophie Delpont, la suite de ces matins du samedi, nous accueillerons Manon Aubry, députée européenne La France Insoumise, pour parler des retraites, de la rentrée sociale et politique.
Tout un symbole, Patrick Balkany a dormi en prison, condamné à 4 ans ferme et 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale hier. Le maire de Levallois-Perret a été emmené à la prison de la santé à Paris à l'issue de son procès. Son épouse et première adjointe Isabelle Balkany, condamnée à 3 ans de prison ferme et également 10 ans d'inéligibilité, n'a pas été incarcérée pour raison de santé. Reportage à Levallois-Perret de Rosalie Lafarge.
Il n'a tué personne, voilà ce que disent beaucoup de Levalloisiens à propos de leur mère, choqués par l'incarcération immédiate de Patrick Balkany. Ils sont nombreux à crier au complot politique.
C'est au moment propice, ça fait des années qu'on n'a pas trouvé la faille, là c'est vendredi 13, je sais pas, allez hop, on le fout en tôle.
C'était voulu, il y a de l'acharnement, c'est de la jalousie, il y a tout, c'est politique de toute façon.
Bien sûr que c'est politique, tout le monde rêve de ça, la mairie de Levallois-Perret.
Certains ne cachent pas leurs ambitions et sont d'ailleurs venus à la rencontre des journalistes hier sur le parvis de la mairie. Lies Messatfa est candidat au municipal pour la liste Levallois d'avenir.
Le pacte républicain a été rompu. Pendant 30 ans, la ville a été certes transformée et maintenant l'enjeu c'est d'évoluer pour durer face à des nouveaux défis. Et c'est vrai que depuis 2014, à cause des différentes problématiques judiciaires, nous n'avons pas pu écrire et inscrire la ville de Levallois dans l'avenir. Et de principauté, il ne faut pas qu'elle ne vienne péninsule.
En tout cas, beaucoup veulent croire qu'une page se tourne à Levallois.
Les gens le disaient avant, de toute manière, c'est la fin.
Arnaud de Courson y est président du seul groupe d'opposition au conseil municipal.
Si c'est la fin de Patrick Balkany, c'est pas la fin de Levallois.
Mais le couple Balkany n'a clairement pas dit son dernier mot, comme le confirme Isabelle Balkany.
La vie, ce sont des pages qui se tournent. Mais là, voilà, elle ne se tourne pas particulièrement. L'inéligibilité est suspensive jusqu'à la fin des recours, c'est-à-dire jusqu'en cassation. Je ne pense pas qu'on soit arrivé en cassation au mois de mars prochain. Et ce sont les Levalloisiens qui prendront la décision qu'ils souhaiteront à l'occasion des municipales.
En attendant, en tant que première adjointe, l'épouse de Patrick Balkany assure l'intérim. Elle présidera le conseil municipal prévu dans 10 jours.
Rosalie Lafarge à Levallois-Perret pour France Culture, pour le magistrat et historien du droit Denis Salas, invité hier soir du journal de 22h de France Culture. Ces deux condamnations marqueront l'histoire judiciaire française. Elles sont dues notamment à l'existence du parquet national financier.
Un parquet spécialisé, un parquet indépendant, impartial, en tout cas indépendant fonctionnellement, si vous voulez, fait le poids par rapport à des avocats spécialisés, qu'ils soient pénalistes ou fiscalistes. Et on s'aperçoit que dans cette affaire-là, l'argument qui a été soulevé a une capacité de convaincre les juges par l'accumulation des preuves qui sont très précisément développées. C'est une rupture dans notre culture politique et dans notre culture judiciaire parce que la tradition des punités en France était extrêmement différente par rapport à ce qu'elle est aux États-Unis, où aux États-Unis, les fraudes, la fraude fiscale est punie très lourdement et elle est à l'encontre des stars du sport et du spectacle et concerne également les complices. Donc je ne sais pas si cette culture d'indépendance, ce changement de culture à l'égard de la fraude fiscale va se prolonger. Nous verrons les voies de recours. En tout cas, c'est un signe que désormais, la fraude fiscale, eh bien, le tribunal veut lui donner les traits d'une véritable délinquance. Et c'est ça le fait absolument nouveau de cette affaire.
Le magistrat Denis Salas répondait à Mathieu Laurent hier soir sur France Culture. Les avocats de Patrick Balkany ont fait appel de ce premier jugement pour le second volet de l'affaire, le blanchiment de fraude fiscale, dans lequel 4 autres personnes ont également comparu. Le jugement attendu sera rendu le 18 octobre prochain. Dans ce volet, le parquet national financier a requis 7 ans de prison à l'encontre de Patrick Balkany. Manon Aubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée La France Insoumise, vous êtes l'invitée des matins du samedi de France Culture. Vous étiez porte-parole à l'ONG Oxfam pour les questions de justice fiscale. La condamnation de Patrick Balkany à 4 ans de prison ferme pour faute fiscale, c'est le signe que la justice fonctionne en France ?
Je crois que c'est un symbole fort et c'est, oui, une bonne nouvelle qu'enfin on considère la fraude fiscale comme un délit à part entière. Mais malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en ayant travaillé pendant des années sur ce sujet, que les condamnations en la matière sur les questions de fraude fiscale se comptent sur les doigts d'une main, en tout cas de la prison ferme. Chaque année, il y en a très peu. Et que quasiment le même jour où il y a eu la condamnation de Patrick Balkany, Google, une grande entreprise, s'en sort avec une transaction pénale. C'est un dispositif qui vient d'être mis en œuvre récemment, qui leur permet d'échapper à toute culpabilité. Ils ont payé 1 milliard d'euros, c'est quand même une somme énorme, qui donne à voir la somme éludée et perdue pour l'État français et donc que nous tous, nous allons payer. Et donc, il y a quand même un deux poids, deux mesures avec, d'un côté, un Patrick Balkany qui, je pense, a été condamné à juste titre et de l'autre côté, des grandes entreprises qui s'en sortent encore en impunité. Donc, j'espère que cet élan pour condamner les fraudeurs fiscaux va s'étendre jusqu'aux grandes entreprises et qu'on va encore un peu pousser derrière le tribunal et le parquet national financier qui a en effet bien joué son rôle dans cette affaire.
Merci Manon Aubry. Vous restez bien sûr avec nous pour les matins du samedi. Caroline Brouet, vous aborderez les autres affaires du moment. Il y en a plusieurs des affaires.
Oui, par exemple, ce Jean-Marie Le Pen qui a été mis en examen hier dans l'affaire des emplois présumés fictifs du Front National au Parlement européen.
Oui, mis en examen pour détournement de fonds publics notamment. L'ancien président du FN a été entendu pendant 4 heures par les juges hier, alors que s'ouvre aujourd'hui à Fréjus l'université d'été du Rassemblement National, ex-Front National. Marine Le Pen, elle aussi mise en examen dans ce dossier, réunit autour d'elle les 22 eurodéputés élus en mai dernier, les 6 députés et le sénateur David Ravier. Il s'agit de créer de la cohésion au sein du parti d'extrême droite avant la prochaine échéance électorale des municipales, Anne Fauquemberg.
Quelle réponse politique aux gilets jaunes? La mondialisation est-elle conciliable avec l'écologie ou encore mieux comprendre la France insoumise et ses contradictions? Quelques exemples des tables rondes qui seront organisées à huis clos ce samedi et demain dimanche au théâtre de Fréjus avant la prise de parole de Marine Le Pen. Alors qu'en parallèle, le mouvement de jeunesse et Génération Nation qui revendique 15 000 membres se réunit à quelques encablures en bord de mer. L'eurodéputé Jordan Bardella, toujours président de la structure, viendra motiver les troupes. Le parti mise en effet sur les jeunes pour ses municipales. 80 moins de 27 ans auraient déjà été investis selon Enzo Elias. Il est le délégué national de Génération Nation. Pour lui, c'est vraiment le bon échelon pour les jeunes.
Ils ont l'opportunité de faire leurs preuves, de jauger en fait leur niveau et de se former. Donc forcément, c'est vrai que ça attire les jeunes parce qu'ils ont envie d'avoir un renouveau de la politique et d'être des acteurs majeurs au niveau local.
En 2014, David Racheline, le maire de Fréjus, avait pris la ville à seulement 27 ans. Fréjus, l'une des 10 villes de plus de 15 000 habitants que le Rassemblement National va tenter de garder en mars prochain, en s'élargissant à d'autres grandes villes comme Perpignan, où le député Louis Alliot est bien positionné. Le scrutin municipal constitue une étape clé pour continuer à crédibiliser le parti avant la prochaine présidentielle. Un soin tout particulier a été mis dans la formation. Plus d'un tiers des conseillers municipaux élus en 2014 ont en effet démissionné. Beaucoup avaient été élus pour la première fois, confie un cadre. C'est vrai que pour certains, l'entrée en politique a été violente.
Anne Fauquemberg. Une mobilisation massive hier à la RATP pour la première grève contre la suppression des régimes spéciaux et la réforme des retraites. Des lignes de métro étaient à l'arrêt. Le trafic revient à la normale ce matin. La semaine prochaine, plusieurs syndicats appellent à la mobilisation des avocats, des pilotes de ligne, mais aussi des kinésithérapeutes, infirmières libérales ou encore des médecins à Paris pour la défense de leur régime de retraite. Les Gilets jaunes ont lancé un appel national manifesté à Nantes aujourd'hui pour tenter de relancer leur mouvement. Des rassemblements sont aussi annoncés à Nancy et à Lens. Mais c'est à Nantes que les autorités craignent le plus de débordements aujourd'hui après l'affaire Steve Maya Canisso. Hier, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé la mutation du commissaire divisionnaire de Nantes en charge du maintien de l'ordre au moment de la mort du jeune homme. Le soir de la fête de la musique en juin dernier, le corps de Steve Maya Canisso avait été retrouvé dans la Loire. Antoine Marette, le flou entoure encore les circonstances précises de la mort du jeune homme dans l'exposé fait hier par Christophe Castaner à propos de l'enquête administrative en cours.
Le ministre de l'Intérieur s'appuie sur le rapport de l'inspection générale de l'administration qu'il a saisi en juillet dernier. Il annonce une sanction. Le commissaire chargé de l'intervention policière va être muté sur un emploi sans responsabilité de maintien de l'ordre dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire. Christophe Castaner ajoute toutefois que l'opération de police était légitime dans son principe, mais pas adaptée dans ses modalités. Il pointe également les responsabilités de la préfecture et de la ville.
J'ai transmis à tous les préfets des instructions concernant le maintien de l'ordre la nuit dans les lieux dangereux. Aucune opération de police ne doit être planifiée dans ces conditions, sauf, bien sûr, s'il y a des atteintes aux personnes ou aux biens. Ensuite, toute intervention destinée à maintenir ou à rétablir l'ordre dans un contexte difficile, et en particulier de nuit, devra à l'avenir être expressément autorisée par l'autorité préfectorale. Concernant plus précisément l'île de Nantes, plus aucune manifestation susceptible de réunir un grand nombre de participants ne devra y être autorisée sans analyse de risque préalable, ni sécurisation physique des lieux. Sous réserve des pouvoirs de police générale du maire, le préfet devra y envisager l'interdiction systématique de tout rassemblement spontané et sans organisateur identifié.
Le ministre de l'Intérieur insiste enfin sur la cause première des violences, avancée par le rapport, l'un des sound systems qui a refusé de couper le son à 4h du matin, contrairement aux autres.
France Culture, suite du journal, 8h11. Comment coordonner la lutte contre les djihadistes au Sahel? La question est au cœur du sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, Sophie.
Oui, les pays de la CEDEAO se retrouvent à Ouagadougou, au Burkina Faso, alors que les attaques de terroristes se sont multipliées, que la menace djihadiste ne cesse de s'étendre, notamment au Mali et au Burkina Faso. Il y a urgence à coordonner davantage cette lutte contre le terrorisme, une urgence lourdement soulignée l'été dernier lors du G7 de Biarritz, où avait été annoncé un nouveau plan de stabilité régionale. Les éléments d'explication de Claude Guibal.
Il suffit de prendre une carte de l'Afrique de l'Ouest pour mesurer la gravité de la tâche. Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, mais aussi Côte d'Ivoire, Ghana ou encore le Bénin, où ont été enlevés il y a quelques mois deux touristes français et leur guide assassiné. Le terrorisme djihadiste continue à gangréner tout l'Ouest africain. Avec l'opération Serval en 2013, puis Barkhane, la France mobilise en tout 4500 militaires pour tenter de combattre ces djihadistes sur un territoire grand comme l'Europe. Un défi colossal qui a largement montré ses limites et la création du G5 Sahel en 2017 est loin d'y avoir changé quelque chose. Cette force conjointe qui rassemble 5000 soldats du Niger, du Mali, de Mauritanie, du Tchad et du Burkina Faso est encore très loin d'être opérationnelle, d'autant que ce G5 Sahel est appelé à coopérer dans les zones frontalières. Or, la menace s'est étendue et les terroristes ont désormais pris l'avantage sur le G5 Sahel en jouant de ses limites pour mener des attaques vers les pays qui en sont membres, depuis d'autres pays qui n'en font pas partie. Ça leur permet ainsi d'échapper aux possibilités de poursuites transfrontalières. Alors que les groupes armés multiplient les alliances et affinent de redoutables stratégies, les États, eux, apparaissent paralysés devant la volatilité et la multiplicité des menaces. Les terroristes semblent avoir systématiquement une longueur d'avance, d'où la question de superposer ou de réactiver d'autres forces de la sous-région comme celles déjà existantes de la CEDEAO.
Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est demain en Tunisie. C'est la deuxième fois que les Tunisiens éliront au suffrage universel leur président depuis la chute de Ben Ali. 26 prétendants au poste sont en lice. Pour la première fois, les islamistes présentent un candidat, Abdel Fattah Mourou. Leur objectif principal sont les élections législatives qui se tiendront dans la foulée. Quel poids les islamistes ont-ils aujourd'hui en Tunisie? Moïne Mercier a fait ce reportage en Tunisie pour France Culture.
La société reste extrêmement divisée. Pour une large partie des Tunisiens, Ennahda, le parti issu des frères musulmans, est indésirable, tout simplement. La première motivation de cet homme pour se diriger demain jusqu'au bureau de vote, c'est de bloquer le candidat islamiste.
Moi, je t'ai dit, je l'ai défait. Franchement, je leur dis, les islamistes n'aiment pas la démocratie.
Ennahda reste le parti le plus organisé, discipliné. Face à lui, les partis séculiers se sont divisés, querellés. Aujourd'hui, le parti islamiste est déjà le bloc le plus important à l'Assemblée. Faut-il dès lors s'attendre à un raz-de-marée ? Pas selon Ali Agana, spécialiste de la Tunisie, directrice de recherche au CNRS.
Le parti Ennahda a connu une érosion importante de son électorat, puisqu'on est passé de à peu près 1 500 000 voix en 2011 à 500 000, un peu plus, aux élections municipales. Ce qu'on observe, c'est aussi des divisions au sein de ce, aussi bien du parti islamiste, mais aussi de la mouvance islamiste, qui s'exprime de plus en plus au grand jour.
Le parti islamiste subit les mêmes critiques que les autres partis avec lesquels il exerce le pouvoir depuis quelques années. Les Tunisiens les estiment tous responsables de leur niveau de vie qui ne cesse de se détériorée. Malgré cela, Ennahda devrait rester le premier parti à l'Assemblée sans pour autant détenir la majorité. Le pouvoir législatif est d'ailleurs le véritable objectif des islamistes. Depuis la révolution, le pouvoir se situe entre les mains du Parlement, bien plus que dans celle du président.
Maureen Mercier. La météo, un temps sec et globalement ensoleillé aujourd'hui, température douce comprise ce matin entre 16 et 28 degrés du nord au sud.